Bonjour à tous, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. J'espère sincèrement que vous allez tous bien, malgré cette épidémie de COVID-19 qui nous touche tous. Nous prions pour vous tous. Nous savons que vous êtes tous dans des situations plus ou moins délicates, surtout nos frères dans certaines parties du monde, comme en Afrique. Et nous savons que vous priez pour nous également. Mais nous prions certainement, et nous voulons tous prier certainement, pour que la volonté de notre Père Céleste soit faite. C'est ça qui compte le plus, n'est-ce pas? Cette épidémie est un accomplissement prophétique, finalement. L'un des signes que Christ donna de l'imminence de son retour, symbolisé par le quatrième cavalier des quatre cavaliers de l'Apocalypse, celui qui monte le cheval verdâtre, plutôt maladif, symbolisant le fléau des épidémies. Et nous sommes tous anxieux de voir le royaume de Dieu installé ici-bas. Ce pauvre monde en a terriblement besoin, n'est-ce pas? Assurons-nous de rester proches de l'Éternel afin d'avoir la force d'affronter les épreuves qui viennent, qui sont annoncées, car Christ nous a annoncé des temps difficiles avant que des temps glorieux et extraordinaires ne soient instaurés. L'un des outils spirituels puissants permettant justement de rester proche de notre Père Céleste afin que sa volonté s'accomplisse est illustré par un cri d'alarme qui fut lancé jadis par une jeune femme quand son peuple fut menacé de génocide. Et vous savez probablement de qui il s'agit, vu le titre que vous avez vu sur votre écran. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces du temps de l'Empire Médo-Perse. Et Assuérus, nous pensons qu'il s'agit de Xerxès le Grand, qui régna de 485 à 465 de notre ère, était alors assis sur son trône royal à Suse, Shushan en hébreu, dans la capitale. Cette ancienne ville, capitale d'Élam, avait été construite par Darius, le père d'Assuérus. La troisième année de son règne, lors de ses préparatifs pour sa guerre contre la Grèce, vers 443 avant notre ère, il fit un festin à tous ses princes, à tous ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent tous réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur. Pendant 180 jours, l'humilité n'était apparemment pas l'une de ses grandes qualités, n'est-ce pas? Et comme si ces six mois de festin n'avaient pas assez duré, le roi fit pour le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un autre festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi, mais on ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun, ce qui était très gentil. La reine Vashti, pour ne pas être en reste, fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, essayez d'imaginer avec toutes ces festivités, le vin qui coule abondamment, il devait en avoir un petit coup, on peut dire. Alors il ordonna à ses 7 eunuques d'amener en sa présence la reine Vashti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était apparemment très jolie. Vashti refusa. Le roi en fut outré. Ce refus l'enragea. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui désobéisse, qu'on lui fasse perdre la face et qu'on l'embarrasse devant ses grands. surtout pas sa femme. Et comme il était impulsif et soupolé, apparemment, il s'adressa au sage qui avait la connaissance des temps. Car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit de l'époque. Il avait auprès de lui 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient sa face et occupaient le premier rang dans le royaume. Il leur demanda quelle loi appliquer à la reine Vashti pour avoir refusé de se présenter. La reine était probablement un peu comme l'un de ses trophées. L'un des princes répondit : « Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a agi mal ou a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront : « Le roi Assuérus avait ordonné qu'on amène en sa présence la reine Vashti, et elle n'y est pas allée. » Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi, et de là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on écrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale, d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. » L'édit du roi resta connu, ou sera connu dans tout le royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. C'était là donc son conseil. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de ce prince. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elles portaient que tout homme devait être le maître dans sa maison, ce qui est biblique, et qu'il parlerait la langue de son peuple. Après ces choses, après avoir pris cette décision hâtive, sous le coup de la colère, lorsque le roi Assuérus fut calmé, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait, parce qu'elle n'était probablement pas mauvaise dans tous les domaines de la vie, et il pensa à la décision qui avait été prise à son sujet, et il se mit à avoir quelques remords. Alors ceux qui servaient le roi lui dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges. Intéressant qu'il ne cherchait pas apparemment une jeune fille, mais plusieurs, même beaucoup. Et belles de figure, ah ça c'est important, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Aiguet, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. » Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Il y avait dans Suse un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, de la tribu biblique de Benjamin, qui avait été emmené à Jérusalem depuis les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Excusez-moi, il élevait Hadassa, la fille de son oncle, qui était orpheline. Esther, c'est d'elle qu'il s'agit, était belle. À la mort de ses parents, Mardoché l'avait adoptée. Et lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des gars, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des gars, gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette, pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Donc elle n'avait pas encore vu le roi à l'époque, mais elle avait plu à l'eunuque principal. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler, par sagesse. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, qui sait ce qui se passait à ce moment-là, après avoir employé un an à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Elles devaient être réellement prêtes et sentaient très bon après un an de préparation, probablement. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui faisait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison de femmes sous la surveillance de Chagaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Car il s'agissait évidemment de concubines à cette époque, à ce stade. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en ait le désir et qu'elle ne soit appelée par son nom. Ça fait penser un peu à la situation de Salomon qui avait 800 femmes, 800 concubines ou quelque chose comme ça. Alors, 1000 femmes en tout. Alors, un jour, une femme, un autre jour, une autre femme, c'était probablement ce qui se passait avec le roi Assuérus. Alors, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abikaïl, oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hegai, eunuque du roi et gardien des femmes. Elle ne chercha pas à voir beaucoup de choses avec elle, simplement. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite après auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Il s'écoula donc plusieurs années avant qu'Esther n'apparaisse devant le roi. Plusieurs années, ça a pris du temps. Elle est restée avec les femmes pendant plusieurs années. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Et on situe le couronnement aux environs de 478 avant notre ère. 478 avant notre ère. Et le roi donna un grand festin. Il semble que ça a été la mode à l'époque. Un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, mais cette fois-ci un festin en l'honneur d'Esther. Comme on dit souvent en France, quand on veut fêter quelque chose, ça s'arrose. Ça s'arrose. Sous-entendu avec pas mal de bon vin. Xerxès accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardochée était à la porte du roi, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine qui la redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques, pas des chroniques bibliques, mais les chroniques des rois, des Mèdes et des Perses, en présence du roi. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, l'Agagite. Aman, descendant d'Agag, un ennemi d'Israël, on s'en souvient, un ennemi cruel dont il est question dans 1 Samuel 15, pour ceux qui voudraient vérifier cela, était Amalécite. Amalek, rappelez-vous, s'était opposé aux enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Et c'était un peu le Hitler de l'époque. Le roi éleva Aman en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les autres chefs qui étaient auprès de lui. Et tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché. Sous-entendu, les Juifs, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus, pas seulement à Suse, mais dans tout le royaume. Il était donc question de génocide. Il préparait un génocide. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on voit tout le temps qui s'écoule, c'est la 12e année du roi Assuérus maintenant, Aman dit au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ils sont différents de tous les autres, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. » Alors, il n'allait pas par quatre chemins. « Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Le roi ôta son anneau de sa main et le remit à Aman. Et le roi dit à Aman, « Fais ce que tu voudras, fais-en ce que tu voudras. » Et le secrétaire du roi fut rappelé le 13e jour du premier mois. Et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple. Alors là, ça a dû prendre du temps, évidemment, pour faire tout cela, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits-enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Leur réaction ? Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Souvenons-nous de ces deux petits mots. Ils jeûnaient. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hatak, l'un des eunuques du roi, que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché qu'est-ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Hatak se rendit vers Mardoché sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hatak vint rapporter à Esther les paroles du roi. Les paroles de Mardoché. Esther chargea Hatak d'aller dire à Mardoché, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, Le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. » Ces mots sont importants. « Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Esther acceptait que s'accomplisse la volonté de Dieu. Mardoché s'en alla et il fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Le troisième jour, Esther prit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Ça devait être un moment très, très tendu. Parce que, rappelez-vous, d'après la loi, si le roi pensait à autre chose, n'était pas d'humeur, et qu'il ne tendait pas son sceptre, c'était la mort. Mais lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Il semble que c'était une expression qu'ils utilisaient assez souvent de par le passé. « Oh, je te donnerai la moitié du royaume. » Je ne pense pas qu'ils étaient réellement sincères à ce sujet, mais enfin, c'était une expression utilisée pas mal. Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. » Et le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther, et pendant qu'on buvait leur vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. Que désires-tu ? Quelle est ta demande ? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras à nouveau. » Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai la réponse au roi selon son ordre. » Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte Mardoché, qui ne se levait ni se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zérek, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther a admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. » Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardoché, le juif, assis à la porte du roi. Zérek, sa femme et tous ses amis lui dirent, « Qu'on prépare un bois, haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. » Cet avis plut à Aman, et il fit préparer le bois, sous-entendu la potence. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, des chroniques des Mèdes et des Perses. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit que ce que Mardoché avait révélé au sujet des deux eunuques du roi qui avaient voulu porter la main sur le roi. Ce dernier dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela ?»« Ah, il n'a rien reçu, » répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, « Qui est dans la cour ? » Aman, venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui, à la potence qu'il avait préparée pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Aman qui se tient dans la cour. Qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudra-t-il honorer? Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se trouve une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, c'était évidemment ce qu'il voulait qu'on fasse à son intention, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman: prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardoché, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer, probablement avec peu de conviction, croyez-moi. Mardoché retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zérek, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui était arrivé. Et ses sages et Zérek, sa femme, lui dirent: si Mardoché, devant lequel tu as commencé à tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Intéressant, cette idée qu'elle avait dans la tête. Mais tu tomberas devant lui. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Il n'eut pas beaucoup le temps de réfléchir à la situation. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin: « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit: « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi. » Et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande. Et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther: qui est-il? Et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit: l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine, et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Il dit: « Serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Et l'un des eunuques dit en présence du roi: « Voici le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. » Le roi dit: « Qu'on y pende Aman. » Et l'on pendit Aman au bois qui avait été préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché dans la maison d'Aman, Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, « Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à tes yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui attendrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race ?» Et je vous laisserai le loisir de lire le restant de cette histoire, il n'y a plus grand-chose après, mais pour résumer, le roi permit qu'un autre édit soit donné, qui annulait en quelque sorte le premier édit qu'avait donné Aman, et tous les Juifs purent se défendre ainsi. Donc, il annulait de par cela, de par cette occasion, ce qui avait été ordonné dans le premier édit. Esther, chapitre 4, verset 16. Esther, chapitre 4 et le verset 16. Je voudrais que nous nous y reportions maintenant. Esther, chapitre 4 et le verset 16. Juste après Néhémie, si vous cherchez, c'est un petit livre, mais on ne le lit pas tellement souvent. Mais Esther 4,16. Voici ce qu'elle dit. « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Non seulement ce récit indique que jeûner consiste à se priver de nourriture et de boisson ou de liquide pendant une période donnée, mais il révèle aussi quelle approche adopter en cas de grave péril, n'est-ce pas? On jeûne premièrement par signe d'humilité. Dieu intervient dans nos vies quand nous l'approchons avec humilité, étant pleinement conscient du fait que sans lui, nous sommes impuissants face au danger, tant au danger physique que spirituel. Quand l'édit d'Aman de détruire le peuple de Juifs, le peuple juif fut publié, comme l'indique le texte, il jeûnait. Il pleurait, se lamentait, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Esther 4, 3. Il est indéniable à la lecture du récit que l'Éternel est intervenu de manière miraculeuse pour sauver le peuple juif. Il savait qu'Aman haïssait les Juifs et le choix d'Esther en tant que nouvelle reine n'était pas un hasard. Mais le retournement de situation qui eut lieu quand le roi, ne pouvant dormir, demanda qu'on lui lise les annales de la ville, et quand il s'aperçut que Mardochée n'avait pas été récompensé de lui avoir sauvé la vie, ça c'était extraordinaire et c'était nettement miraculeux aussi. Tout est arrivé au bon moment. Avant même qu'Aman ait eu la chance de demander au roi de pendre Mardochée, le roi lui demanda comment honorer un tel homme. Là aussi on voit la main de Dieu, son intervention miraculeuse au bon moment. Peut-être à quelques minutes près, Aman aurait pu faire sa demande. Mais tout s'est passé exactement au bon moment. On voit la main de Dieu dans tout ce scénario. Et je me demande si nous voyons la main de Dieu dans nos vies. Et notamment quand nous jeûnons. Le jeûne est un outil spirituel puissant qui nous permet de nous rapprocher de notre Père céleste. Et en signe d'humilité. Ça, c'est premièrement, mais deuxièmement aussi pour mieux appréhender sa volonté. Penser davantage comme il pense. Et cela en acceptant sa volonté, quelle qu'elle soit. Rappelez-vous les paroles d'Esther. « J'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Nous jeûnons souvent, évidemment, quand nous sentons que notre nature humaine a trop le dessus. Mais dans cette prise de conscience, il doit y avoir un désir de nous plier entièrement à la volonté divine. Le jeûne n'est pas un outil de marchandage. Il n'a pas pour objet de forcer Dieu à faire quelque chose, le pourrions-nous, de toute façon. Mais ce n'est pas un outil de marchandage pour l'inciter ou l'encourager à faire quelque chose parce que nous aurions fait pénitence. Le jeûne n'est pas non plus une grève de la faim pour nous faire entendre si, comme si en nous humiliant devant notre Père Céleste, nous devenions du même coup dignes de recevoir de lui ce que nous désirons. Le jeûne nous rappelle qui nous sommes ou ce que nous sommes, autrement dit, pas grand-chose. En jeûnant, nous recherchons avant tout la volonté de Dieu et non la nôtre. Conscient de ce qu'il veut toujours notre bien et souhaite nous voir heureux et nous bénir. Isaïe nous dit ce que notre Père Céleste attend de nous quand nous jeûnons. Isaïe chapitre 58, verset 1. C'est là un chapitre très important sur le jeûne. C'est un passage dont il est bon de se souvenir. Isaïe 58, et nous débuterons avec le verset 1. Isaïe 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, ce qui n'était évidemment pas le cas. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. On sent ici qu'il y a un peu d'ironie dans ce qui est dit ici. Ils désirent l'approche de Dieu. Ils étaient dans cette situation difficile et ils voulaient savoir, Dieu, est-ce que tu ne peux pas nous aider? Et le verset 3, nous pouvons lire ceci, que nous sert de jeûner. Alors, ça c'est le peuple qui dit cela. Que nous sert de jeûner? Si tu ne le vois pas, le peuple parle à Dieu, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Quand nous jeûnons, évidemment, nous souhaitons que Dieu nous entende. Mais pourquoi? Il est bon de nous poser la question. Nous jeûnons surtout parce que nous nous rendons compte que notre nature humaine est plus forte, est trop forte, qu'elle insiste trop sur sa propre satisfaction. Or, comme Isaïe le dit ailleurs au chapitre 55, incidemment, au verset 8 et 9, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Ou le contraire, dit l'Éternel, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix, et mes pensées vos pensées. » Et nous souhaitons non seulement nous rapprocher de notre Père Céleste quand nous jeûnons, mais aussi avoir ses pensées. Nous sentons notre misère. Comme Paul le dit dans Philippiens 3:21, notamment dans la version du 21e siècle, nous savons que grâce à son Saint-Esprit, si nous nous humilions et nous soumettons à lui, il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Philippiens 3:21. Mais revenons à Isaïe 58:3. Le peuple posait la question, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Et Dieu répond. Et voici ce qu'il dit, voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Autrement dit, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez accomplir votre volonté, vous ne cherchez pas la mienne, vous cherchez la vôtre. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez, pourquoi? Pour vous rapprocher de Dieu? Non, pour disputer et pour vous quereller, pour frapper m'échappant du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et là, Dieu nous dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et Dieu ne parle plus seulement ici d'un jour, mais de tout un mode de vie finalement, d'une attitude de tous les jours, parce que cela, on le voit en lisant ce qui suit. Il ne s'agit pas seulement d'un jour, il s'agit d'une façon de voir les choses, d'une attitude, d'une ligne de vie. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Voilà, si tu fais cela comme cela. Mais à nouveau, il ne s'agit pas seulement d'un jour, ici on le voit très bien. Il s'agit d'une attitude dans la vie. Verset 9, « Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. » Et c'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? « Tu crieras et il dira, me voici. » Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. C'est une image, bien sûr. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. C'est prophétique. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. À nouveau, nettement prophétique ici. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon jour saint, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Pour Dieu, le jeûne est surtout une attitude, un mode de vie. Et comme il le dit au verset 9, « Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. » Et n'est-ce pas ce que nous recherchons? Le jeûne est un outil spirituel puissant. Mais il doit aussi avoir pour objet une recherche de notre part d'avoir les pensées divines. D'avoir les pensées divines en nous. D'être, pourrait-on dire, à la même page, dans son livre à lui. Sommes-nous comme Moïse qui voulut voir la face de l'Éternel qui lui dit « Si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux ?» Un jeûne efficace, frères et sœurs, c'est un jeûne pratiqué avec cette attitude. Quand nous prions Dieu de nous donner notre pain quotidien, pensons-nous uniquement à nos besoins physiques ou au pain spirituel dont parlait Christ? De quoi nous nourrissons-nous? Après un jeûne, pour nous, inimaginable, de 40 jours, quand Jésus fut tenté par Satan, il répondit, l'homme ne vivra pas seulement de pain ou de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4, vous connaissez le passage. Pour que nos jeûnes soient efficaces, frères et sœurs, il faut d'abord que nous recherchions la volonté de Dieu. Les pharisiens jeûnaient pour se faire passer pour justes et spirituels. C'était pour la frime, pour l'apparence. Pensez à la parole à la parabole du pharisien et du publicain dans Luc 18. Luc 18. Reportons-nous à Luc 18. Luc chapitre 18 et à partir du verset 9. Luc 18, 9, il y a encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Intéressant. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain, collecteur d'impôts. Certainement la profession la plus méprisée à l'époque. Toujours méprisée dans une certaine mesure aujourd'hui. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine. » Voilà un individu qui se targuait de jeûner deux fois par semaine, mais il semble que c'était surtout pour se faire remarquer et admirer, et non pour plaire à Dieu. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Conclusion, la morale de l'histoire, verset 14, je vous le dis, celui-ci, le publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Le livre d'Esther nous fournit un verset clé définissant ce qu'est le jeûne. Il nous dit ce qu'il faut faire dans une situation de grave péril. Et il nous montre ce que nous devons nous soumettre entièrement à la volonté de notre Père Céleste. Et quand c'est le cas, si nous avons des yeux pour voir, je répète, si nous avons des yeux pour voir, des miracles commencent à se produire. Le jeûne est un exercice secret. C'est entre nous. Il doit se faire dans l'intimité. Matthieu chapitre 6, verset 16. Matthieu chapitre 6 et le verset 16. Lorsque vous jeûnez, notez bien, il n'est pas écrit si vous jeûnez, mais il est écrit lorsque vous jeûnez. Et incidemment, ça ne doit pas être seulement juste une fois par an lors du jour des expiations. Mais lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mohandas Gandhi, qui vécut de 1869 à 1948, joua un rôle capital dans l'accession à l'indépendance de l'Inde en utilisant systématiquement les principes de non-violence et de désobéissance civile. Et c'était un fervent adepte du jeûne par conviction religieuse, et cette pratique lui permettait, pour citer ce qu'il disait, de se libérer des contraintes du corps. C'était là un bon principe, finalement. Nous essayons, nous aussi, de nous libérer des contraintes du corps, n'est-ce pas? C'était un bon principe, mais il utilisait aussi le jeûne comme un moyen de pression sur le plan politique. Il entama plusieurs grèves de la faim pour protester contre les violences commises, notamment entre les hindous ou entre hindous et musulmans. Et Gandhi pratiquait le jeûne, mais ne mangeant et ne buvant généralement rien, mais il pratiquait le jeûne pour obtenir gain de cause. Ces jeûnes étaient-ils des jeûnes ou des grèves de la faim? Plutôt des grèves de la faim, ce qui n'est pas notre objectif en tant que chrétiens. Comme nous l'avons lu dans Ésaïe 58, 4, nous jeûnons pour que notre voix soit entendue en haut. Et ceci pour les bonnes raisons. Le jeûne biblique n'a aucun rapport avec l'ascétisme non plus. L'ascétisme, A-S-C-E-T-I-S-M-E, l'ascétisme, est une discipline volontaire du corps et de l'esprit, cherchant à tendre vers une perfection par une forme de renoncement ou d'abnégation. Notez bien qu'il ne s'agit pas de rechercher la perfection en obéissant à Dieu, mais en pratiquant une forme de discipline, de renoncement ou d'abnégation. L'apôtre Paul eut affaire à des ascètes auxquels il fit allusion dans son épître aux Colossiens, notamment dans le deuxième chapitre. Il y a souvent chez les ascètes un souci de vouloir se faire passer pour humble. Colossiens chapitre 2, 18 et le verset 18 parlent d'une apparence d'humilité, d'une apparence d'humilité. Puis il est question de vain orgueil, de pensée charnelle, de principes élémentaires du monde. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Reportons-nous à ce passage. Colossiens chapitre 2, verset 16. Colossiens chapitre 2 et le verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ, mauvaise traduction, mais ça a été ajouté après, mais le corps de Christ. Sous-entendu, mais laissez cela au corps de Christ, laissez cela à l'Église. Que personne, sous une apparence d'humilité par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Et à nouveau, il condamne ici cette philosophie qui était ou qui est ce qu'on appelle l'ascétisme. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, sous-entendu ceux dont on vous parle, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, comme si vous n'étiez pas converti, vous impose-t-on ces préceptes? Préceptes. Et ce n'est certainement pas l'Église qui vous impose ces préceptes, ce sont ces gens-là qui cherchent à vous égarer. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Principes qui deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse. Apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, un culte intéressant. De l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. À nouveau, leur but n'était pas d'essayer de plaire à Dieu, de faire la volonté de Dieu, mais de se faire passer pour des gens très disciplinés, etc. Enfin, c'est toute une autre histoire. Mais quand Esther prit conscience de la gravité de la situation, consciente du fait qu'Aman projetait le génocide de sa race, elle sut quoi faire. Et elle dit à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, ne mangez ni ne buvez de 3 jours, tant la nuit que le jour. Et pour moi et mes servantes, nous jeûnerons de même. Puis je m'en irai ainsi vers le roi, bien que ce soit contre la loi, et s'il arrive que je périsse, je périrai. » Et j'ai cité ici, Esther 4, 16 de la version Osterwald. Le mot qui résume le mieux l'objet du jeûne est le mot humilité. Humilité. David indique cela dans le psaume 35. Dans le psaume 35, et je le lirai simplement, faute de temps, il est écrit « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Nous devons donc être certains, il s'agit de psaume 35 et le verset 13, nous devons donc être certains que si nous jeûnons, nous avons cette attitude. Contrairement aux jeûnes de ce monde, qui sont dans la plupart des cas des grèves de la faim à nouveau, le jeûne auquel l'Éternel prend plaisir est un jeûne lors duquel nous nous humilions. Nous humilions. Le fait de ne pas manger et de ne pas boire produit déjà en nous un affaiblissement physique. Nous avons moins de force. Nous devenons plus vulnérables, plus fragiles, plus dépendants de la nourriture physique. Il y a trois choses intéressantes à noter dans ce psaume de David. Premièrement, il revêtait un sac. Autrement dit, en langage moderne, il ne se parait pas de ses plus beaux habits, mais d'un habit très ordinaire. Deuxièmement, il humiliait son âme. Et troisièmement, il priait, la tête penchée et non la tête haute. Quand nous jeûnons, nous devons aussi prier. C'est un jour que nous devons, dans lequel nous devons consacrer un certain temps à prier, à nouveau pour nous rapprocher de notre Père céleste. Dans le psaume 109, il est écrit « Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. » Nous sommes faibles lorsque nous jeûnons. Il s'agissait de psaume 109 et le verset 24, incidemment. Et Christ nous a donné une parabole sur la discrétion et l'humilité. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, guérit un homme hydropique qui se trouvait là, aux grandes dames des pharisiens. Puis il adressa une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, Luc 14 et le verset 8, Luc chapitre 14 et le verset 8. Luc 14, verset 8. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, plus importante que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « cède ta place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place. Afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut !» Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui sont à la table avec toi. Car quiconque s'élève, sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Un principe important. Christ a dit la même chose dans sa parabole sur le pharisien et le publicain. Dans Luc 18. La vanité ou l'orgueil, trait de caractère satanique, est en abomination à l'Éternel. Dans Proverbe 16:5, il est écrit, Proverbe 16:5, je ne m'y reporterai pas, mais il est écrit, tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Et certes, il ne restera pas impuni. Contrairement aux grèves de la faim relativement courantes dans ce monde, nous devons offrir à l'Éternel de vrais jeûnes. Joël chapitre 2, verset 12. Joël chapitre 2 et le verset 12. Juste après Osée. Si vous trouvez Osée, vous trouvez Joël, c'est juste après. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, de tout votre cœur. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Il faut que ce soit intérieur, c'est pas pour la frime, pour que tout ce qu'on peut voir. Question de quelque chose d'intime, d'intérieur, de personnel, de secret. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Il y a trois mots clés dans ce passage. Revenez à moi, revenez à moi. Et Dieu nous dit de déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Autrement dit, de ne pas faire tout un spectacle extérieur. de réellement nous repentir. C'est de cela qu'il est question. De Corinthiens chapitre 6, verset 4. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience. Il est question de Paul, de son ministère, de leur, du ministère des apôtres, des serviteurs de Dieu. Nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Les, pluriel, jeûnes, les jeûnes. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, etc. etc. 2 Corinthiens 4, verset 4, 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 4, une page avant. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Rappelez-vous ceci, frères et sœurs. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et il semble que ce mauvais jour arrive. Tenez ferme après avoir tout surmonté. La Bible indique que l'un des outils puissants pour pouvoir nous approcher de Dieu, c'est justement le jeûne. Le cri d'alarme d'Esther fut un appel au jeûne. L'épidémie de coronavirus devrait être pour nous un cri d'alarme, nous incitant à être prêts quoi qu'il arrive. Jeûner, c'est avant tout rechercher que la volonté divine soit faite. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat. Je vous dis bon courage, au revoir et à bientôt.